les podcasts de Radio Vatican.
En Thaïlande, 3 ans se sont écoulés depuis le coup d'État de l'armée qui a mis fin au gouvernement intérimaire. Un gouvernement qui avait succédé à celui de Yingluck Shinawatra, destitué par la Cour constitutionnelle le 6 mai 2014. Depuis le 22 mai de la même année, la junte n'a jamais cessé d'accentuer son pouvoir sur la société thaïlandaise. Ce lundi 22 mai, l'ONG Human Rights Watch s'est inquiétée des promesses non tenues des militaires thaïlandais en matière de droits de l'homme dans un pays où il est interdit de réunir plus de 5 personnes et où la liberté de la presse est totalement muselée. Mais derrière cette militarisation à marche forcée du pays, c'est bel et bien vers un pouvoir monarchique tout-puissant qu'il faut regarder. L'éclairage d'Eugénie Mériot, elle est docteure en sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste de la Thaïlande.
Donc dans cette constitution est désignée une période transitoire de 5 ans durant laquelle les militaires pourront conserver de fait le pouvoir en nommant le Sénat, l'intégralité du Sénat, et en se réservant des postes ex-officio, donc pour le chef des trois armées ainsi que pour le commandeur suprême des armées, donc qui siégeront de droit au Sénat. De la même manière, le Sénat pourra participer à l'élection du Premier ministre et pourra désigner un Premier ministre qui n'est pas issu d'une majorité parlementaire, qui n'est pas issu du Parlement, et on peut s'attendre à soit la nomination d'un Premier ministre directement issu de l'armée, soit la nomination d'un Premier ministre qui jouit de la confiance de l'armée. Voilà. Il y a également des articles, l'article 44 qui a été d'une certaine manière repris dans la constitution actuelle, qui donne au Premier ministre l'ensemble des pleins pouvoirs, avec donc la possibilité d'ordonner toutes sortes de mesures judiciaires, législatives ou administrative, sans aucun contrôle, qu'il soit parlementaire ou même sans aucun contresein.
Depuis la mort du roi Bhumibol au mois d'octobre dernier, roi extrêmement populaire, on se souvient, la monarchie thaïlandaise a vraiment changé. On avait l'impression avant que cette monarchie extrêmement respectée pouvait être un rempart contre les dérives, notamment les dérives militaires. Est-ce que c'est faux, cette vision ?
Oui, c'est une vision erronée. Ça a été une stratégie de l'armée et de la monarchie depuis les années 50 de faire apparaître cette relation entre l'armée et la monarchie, qui érige la monarchie en garde-fou de l'armée et l'armée en protecteur de la monarchie. En réalité, le tableau que l'on peut dresser de l'ensemble des développements politiques thaïlandais depuis 1932, c'est qu'au contraire, armée et monarchie, notamment depuis les années 50, donc depuis la reconstruction à la fois du pouvoir royal et du pouvoir militaire dans un même temps, est une relation d'interdépendance qui se révèle être un grand succès, comme on peut le voir aujourd'hui avec cette montée en puissance des militaires et de la royauté dans un même mouvement.
Dans un rapport très critique, plusieurs ONG et Human Rights Watch en particulier ont dénoncé une junte qui n'a pas tenu ses promesses en matière de droits de l'homme. Quels sont un peu ces exemples d'abus aujourd'hui qui inquiètent finalement les Thaïlandais?
Je crois que vous méprenez encore une fois en pensant que c'est la dictature militaire qui doit être pointée du doigt et non l'institution monarchique qui se situe aux commandes. Aujourd'hui, on est dans un système, donc certes, il y a une dictature militaire, mais cette dictature militaire, elle répond à un objectif de néo-absolutisme du nouveau roi. Et c'est la dépendance de l'armée à l'égard du nouveau roi qui doit nous intéresser beaucoup plus que l'appui de la monarchie à la dictature militaire. De la même manière, pour les violations des droits de l'homme, si on a un grand nombre d'arrestations pour violation de l'interdiction de se retrouver à plus de 5 personnes, qui est donc un ordre émanant directement de la junte pour empêcher les contestations envers la dictature militaire. Ces arrestations-là sont beaucoup plus limitées dans le temps, beaucoup plus limitées également dans la portée répressive qu'elles ont, que la mise en œuvre des lois de lèse-majesté qui, elles, sont réellement le cœur, le verrou autoritaire de la Thaïlande, et ce, depuis bien avant la mise en œuvre de la dictature militaire. Alors, depuis le coup d'État de 2014, la loi de lèse-majesté a conduit à l'arrestation de plus d'une centaine de personnes, et elle a également servi à intimider la majorité de la population qui vit dans la peur constante d'une arrestation pour lèse-majesté, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, la junte procède à une politique d'arrestation arbitraire et aléatoire en choisissant des personnes qui cliquent « like » ou qui partagent des posts, considérés comme illicites, mais bien évidemment considérés comme illicites après coup, hein, c'est-à-dire qu'au moment où les personnes cliquent like, les moments où elles partagent les publications, elles ne savent pas que c'est un poste illicite, puisque les frontières de la lèse-majesté ne sont absolument pas définies. Ces personnes-là sont arrêtées, sont emprisonnées, et ça permet de créer un climat de peur généralisée. Aujourd'hui, l'armée nous dit que le fait même de lire du contenu sur Facebook qui, avec un caractère de lèse-majesté, qui même si l'on ne partage pas, est déjà en soi passible de lèse-majesté. Donc là, on entre dans une ère de censure des opinions, de censure des activités telles que ce que l'on peut avoir en Corée du Nord. Bien sûr, la répression n'est pas si forte qu'en Corée du Nord, mais on s'approche quand même d'une volonté de verrouiller les pensées négatives des Thaïlandais à l'égard de leur monarchie. Donc maintenant, il sera interdit de penser du mal du monarque ou du moins d'avoir une pensée critique sur l'institution même de la monarchie.
Comment vous expliquez finalement ce décalage de perception et le fait que finalement, à vous comprendre, c'est bien la monarchie et l'absolutisation du pouvoir monarchique qui est le vrai problème et c'est lui qui tient les ficelles. Comment vous expliquez que de l'extérieur, on en soit finalement, on soit focalisé un peu sur l'armée, ces méchants militaires et que finalement le roi est toujours représenté un peu une face présentable, si j'ose dire, du pays.
C'est le produit de nombreux facteurs. Premièrement, le royalisme, l'adhésion à la monarchie est quelque chose de très ancré chez les Thaïlandais. Et les journalistes étrangers, tout comme les universitaires étrangers, ont souvent pris pour argent comptant les rapports des médias thaïlandais et les rapports des universitaires thaïlandais qui étaient tous favorables, très favorables à la monarchie, puisque c'est la propagande royaliste qui est en œuvre depuis toujours. L'armée et la monarchie, quand en 1957, ils ont fait ce pacte d'interdépendance mutuelle, ont décidé de mettre à l'honneur la monarchie pour construire la légitimité du régime et de laisser le mauvais rôle à l'armée, si vous voulez. C'est comme le mauvais flic et le bon flic. Donc il y a l'institution qu'on grandit, qui a toute l'aura de la légitimité, et puis l'autre institution, l'armée, qui est son bras effectif et qui, elle, peut cristalliser les critiques. Et c'est dans ce rapport-là qui a été théorisé, qui a été mis en œuvre donc depuis les années 50, qu'on arrive à une compréhension de la Thaïlande qui fait apparaître l'armée comme la source de tous les maux de la Thaïlande. Or, ce n'est pas le cas. On voit bien que l'armée est dans une position de dépendance et d'obéissance totale par rapport à la monarchie, du moins en ce moment. Ça a pu fluctuer au cours de l'histoire, mais ça a toujours été la monarchie qui a été le gage de légitimité de l'armée.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.